Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on s'intéresse ce matin à une forme de prédation inattendue, l'apiculture. Bernard Bertrand, on s'était rencontré il y a quelques temps. Vous m'aviez parlé d'une rencontre que vous veniez de faire et qui vous avait beaucoup marqué. Un vieux monsieur, Gilles Berveuil, que vous avez rencontré, je crois, très peu de temps avant qu'il disparaisse. Et puis, en fait, de cette rencontre est né un livre. Et au-delà de ce livre, toute une réflexion que vous avez menée. Le livre, c'est vous-même qui l'avez publié, puisque vous êtes auteur et éditeur des éditions du Terrain. Le livre s'intitule « Les ruches de biodiversité ». Et en fait, à travers cette rencontre et peut-être d'autres que vous allez nous raconter, c'est toute une réflexion que vous avez menée sur l'apiculture telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, ça fait maintenant un siècle pratiquement, sans qu'on y prête garde, il y a eu une transformation de l'apiculture, mais qui s'est faite dans un silence total. Alors peut-être pourriez-vous d'abord nous parler de ce vieux monsieur, Gilles Berveuil.
Alors Gilbert, c'était un monsieur assez extraordinaire. Il a travaillé toute sa vie sur des modèles de petites ruches, non conventionnelles, on va dire, qui s'appellent la ruche varée. Et puis jusque dans les années 80, tout s'est bien passé, comme tout le monde d'ailleurs. Moi, à l'époque, j'avais aussi quelques ruches tout à fait classiques, des ruches à cadre classique. Tout allait bien, on faisait deux interventions par an. On posait les hausses au printemps et on les enlevait en fin d'été. On récoltait le miel, c'était merveilleux, il n'y avait rien à faire. Et puis Gilbert, comme nous tous, on a connu l'arrivée du varroa. Et ce parasite qui est venu d'Asie a, en quelques années seulement, décimé complètement tous nos ruchers. On a vu dépérir nos ruches les unes après les autres, quelles que soient nos pratiques. Et Gilbert a fait partie de ceux qui se sont posé des questions et qui ont remis en cause leurs pratiques apicoles. Puisqu'on se rend compte de plus en plus, et cette rencontre avec Gilbert a pour moi été déterminante, parce qu'effectivement, il y a des facteurs extérieurs, c'est clair, comme le varroa qui vient de l'autre bout du monde et qui parasite nos abeilles. Mais si les abeilles ne résistent pas à ce parasite, il y a des raisons. Et ces raisons, effectivement, on en est en partie responsable, ça vient beaucoup, c'est beaucoup lié à nos pratiques apicoles.
Mais alors là, je vous arrête, Bernard Bertrand, parce qu'il y a des raisons qui sont aujourd'hui bien documentées et que vous n'évoquez pas. Ce sont les épandages massifs de pesticides, ce sont certaines molécules dont on a pu prouver, après des années de lutte, qu'elles étaient particulièrement meurtrières pour les abeilles. Ce sont également très soupçonnées les lignes à très haute tension, les ondes électromagnétiques, peut-être même les antennes des téléphones portables. Enfin, il y a énormément de choses dans notre environnement qui peuvent expliquer cette disparition massive des abeilles.
Oui, c'est évident que la disparition massive des abeilles est un phénomène plurifactoriel. Mais la question que s'est posée Gilbert, c'est pourquoi les abeilles ne sont plus capables de résister à ces agressions qui viennent de l'extérieur.
Parce qu'elles n'en peuvent plus.
Bien sûr, parce qu'elles n'en peuvent plus, mais elles n'en peuvent plus d'abord de nos bêtises à nous. L'abeille est sur Terre depuis plus de 600 millions d'années, l'homme depuis 3 à 4 ou 5 millions d'années, pas plus. L'abeille a survécu à des difficultés et des changements environnementaux bien plus violents que ceux qu'on leur fait subir aujourd'hui. C'est pas du tout pour dédouaner tous ces phénomènes de pollution multiples et variés, à commencer par les pesticides, qui sont des produits têtes de mort, qui sont faits effectivement pour tuer en particulier les insectes. Donc c'est normal qu'elles y résistent pas. Mais si je reviens sur mon exemple du varroa, ce qui a mis la puce à l'oreille à Gilbert, quelle a été la réponse à l'époque des apiculteurs pour lutter contre le varroa? Donc le varroa, d'abord, ce qu'il faut remettre dans le contexte, pourquoi le varroa, un parasite, un acarien comme ça, arrive à se développer de façon si spectaculaire partout autour du monde en quelques années seulement? C'est 4-5 ans pour avoir envahi toute la France et décimé tout le cheptel français. Tout simplement parce qu'il n'y a qu'un seul type d'apiculture à l'époque. Et Gilbert a très bien connu cette période-là, puisque lui, il faisait un petit peu partie des exceptions avec ses ruches varées, que déjà son père utilisait. Gilbert, il se rend compte qu'effectivement, l'uniformisation des ruches, en particulier des dadans et des langstroths, qui sont deux modèles de ruches qui sont aujourd'hui universellement utilisés partout sur toute la planète, favorise effectivement la progression. Ajoutez à cela les transhumances et diverses pratiques, les imports d'abeilles d'Italie parce qu'elles sont plus douces, enfin, il y a tout un ensemble de choses qui fait que le varroa va se développer très très vite. Si on était resté avec des abeilles locales, si on les avait laissées essaimer naturellement, puisque depuis des décennies, l'apiculteur empêche ses abeilles d'essaimer, parce qu'il estime que c'est une perte de productivité, au cœur de ce problème de la ruche, il y a la productivité. On y reviendra parce qu'il y a plein de petits éléments qui viennent et qui convergent et tous vont dans ce sens-là. C'est-à-dire plus on cherche à avoir une abeille productive, une ruche productive, plus on affaiblit sa capacité d'autodéfense, sa capacité d'autorésistance. Parce que toute la sélection, tout le travail de l'apiculteur aujourd'hui, toute la sélection faite sur les abeilles vont dans ce seul sens de produire toujours plus. Autrefois, on ne produisait que du miel. Aujourd'hui, on produit non seulement du miel, mais aussi de la gelée royale, du pollen, de la cire, bien sûr, de la propolis, etc.
Vous avez déjà dit beaucoup de choses, Bernard Bertrand, et j'aimerais peut-être, dans tous ces éléments, qu'on revienne sur un certain nombre d'entre eux. Par exemple, vous avez évoqué le fait qu'aujourd'hui, il y aurait une moins grande diversité d'abeilles sur la planète, puisqu'il y a apparemment un seul système. Il y avait des races différentes d'abeilles qui ont disparu?
Oui. Tout à fait, oui. Il y avait des races locales qui s'étaient adaptées à chaque région, chaque micro-région. On connaît l'abeille italienne, on connaît l'abeille du Caucase, il y a notre abeille européenne aussi qui est l'abeille noire. Voilà, on connaît tout ça. Mais avant, je voudrais revenir sur ce fameux varroa. Quelle a été à l'époque la réponse des apiculteurs? Ça a été uniquement une réponse chimique.
Même chez les bio?
Alors, même chez les bio. Moi, j'étais agriculteur bio à l'époque. J'avais 4-5 ruches juste pour moi. Hein. C'était pas du tout pour la production. Mais mes amis apiculteurs professionnels m'ont incendié, m'ont traité d'assassin parce que je ne traitais pas mes ruches en chimie. Et du coup, j'ai arrêté d'avoir des ruches. Et avec moi, d'autres amis ont subi la même chose.
Assassin parce qu'à cause de vous, le varroa allait arriver chez eux?
Parce que voilà, leur argument, c'était de dire à cause de toi, le varroa va se développer. Ce qui était complètement faux. Et la preuve en est d'ailleurs qu'aujourd'hui, 30 ans après, quel est le résultat de cette lutte chimique? C'est des souches de varroa qui résistent aux pesticides chimiques que l'on utilise, pendant que la capacité de résistance des abeilles, elle, est en chute libre. Donc on voit bien effectivement que dans nos pratiques, il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui encore, dans le schéma classique, conventionnel de l'apiculture, on encourage les traitements chimiques. Tout en sachant très bien, parce que vous ouvrez n'importe quel livre d'apiculture, ils vous le disent, ils savent très bien que ces traitements chimiques affaiblissent les défenses immunitaires des abeilles, mais on continue de les utiliser. Donc heureusement, aujourd'hui en bio, effectivement, on a des parades, mais on est dans ce schéma qu'on répète, malheureusement, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, on fait la même chose en agriculture, on détruit. On sait très bien qu'on fragilise l'écosystème ou qu'on fragilise les capacités d'autodéfense d'un insecte comme l'abeille, mais on continue, on s'enferme là-dedans. On va jusqu'à prétendre qu'aujourd'hui, effectivement, les abeilles ne survivraient plus sans nos interventions, ce qui est quand même un comble. C'est bien évidemment tout le contraire. Les abeilles seraient bien plus heureuses si on n'était pas là à les embêter sans arrêt et à les fragiliser que si on les soigne avec de la chimie, qui sont des produits tête de mort, qu'on va retrouver dans la cire, qu'on va retrouver. On a l'impression que les abeilles ne se nourrissent que de miel, c'est complètement faux. La propolis, la cire, parce que l'argument des prochimistes, c'est de dire que les pesticides chimiques ne se retrouvent pas dans le miel, sauf sous forme de traces infimes, bon voilà, ça serait sans conséquence. Donc pas de conséquence non plus pour la consommation, pour le consommateur. Mais il faut mettre des bémols à ces arguments-là, parce que les produits chimiques, ils se concentrent par contre dans la cire. Ils se concentrent aussi dans la propolis. On les retrouve partout dans la ruche. Donc l'abeille, elle n'est pas indemne de pesticides. Elle subit. Elle subit ces pollutions-là. Aujourd'hui, un essaim est deux fois plus petit. Une grappe d'abeilles dans une ruche est quasiment deux fois plus petite qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Pourquoi? Il y a quand même bien des raisons. Et c'est tous ces facteurs-là. Alors bien évidemment, il y a la pollution chimique extérieure et tout ça. Mais toutes nos interventions dans la ruche ont aussi leur part de responsabilité.
Alors c'est curieux, Bernard Bertrand, parce que c'est moi qui ai attiré votre attention sur les pesticides en vous parlant des pesticides qui avaient été épandus sur les champs, de colza, de tournesol, et vous revenez finalement aux pesticides via le varroa en disant les traitements médicamenteux, enfin soi-disant prophylactiques pour se débarrasser du varroa, ont accumulé les pesticides dans les cires, la propolis, etc. Bon, j'imagine que c'est également le cas de tous ces autres pesticides. Enfin, j'imagine. On sait aujourd'hui que c'est le cas de tous ces autres pesticides qui ont été épandus. J'aimerais maintenant vous ramener donc sur cette question de la diversité des abeilles. Vous l'avez dit, il y a eu de la sélection. Alors, c'est vrai qu'on connaît mieux finalement ces questions de sélection animale lorsqu'il s'agit de cheptels bovins ou ovins. On sait qu'il y a eu là aussi des ravages avec des races qui ont été pratiquement éradiquées au profit d'autres qui sont plus productives justement, comme par hasard. Mais vous avez évoqué aussi tout à l'heure la transhumance des abeilles qui également contribuerait à affaiblir les essaims.
Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes nos interventions sur la ruche, il faut bien considérer que la ruche est un tout. Dans la ruche, il y a le corps et ses habitants. C'est un tout indissociable.
Le corps, c'est-à-dire la maison ?
La maison, tout à fait. C'est un corps indissociable et c'est cet ensemble, c'est cette unité qui est capable de résister effectivement, si on lui en laisse la possibilité, de résister aux diverses agressions qu'elle subit. Une raison toute simple à cela, je vais commencer par ça parce que ça aidera effectivement à bien comprendre pourquoi on tente à promouvoir des ruches de biodiversité sur lesquelles on ferait zéro intervention. Il y a une raison toute simple à cela, c'est qu'à partir du moment où on n'ouvre pas une ruche, on respecte ce qu'on appelle l'enveloppe de propolis. Des chercheurs américains ont montré que une ruche, et donc ils se sont posé la question justement de savoir, la même question que Gilbert s'est posée, que moi je me suis posée par la suite, pourquoi est-ce que des ruches sauvages subsistent dans la nature alors que toutes nos ruches élevées avec tous nos bons petits soins entre guillemets, elles périssent les unes après les autres et des fois de manière très spectaculaire puisque dans les Pyrénées, chez moi, milieu qui est particulièrement préservé, on pourrait croire en tout cas qu'il est préservé, c'est 70 à 100% de colonies d'abeilles qui ont disparu dans les deux dernières années dans certaines régions des Pyrénées. Donc c'est quelque chose de spectaculaire.
Et en revanche, vous avez trouvé des ruches sauvages.
Oui, en parallèle, dans le même temps, effectivement, il y a des ruches sauvages qui subsistent, qui dans une cheminée, une autre dans un vieux châtaignier ou dans un clocher d'église, qui subsistent et qui résistent. Quelle est la différence entre ces deux modes de développement d'abeilles ? Un domestiqué, l'autre dans des conditions sauvages, parce qu'il se peut que les essaims viennent aussi du rucher voisin. Donc il n'y a pas forcément de différence fondamentale. Mais
voilà, juste une précision, Bernard Bertrand. Les abeilles des ruches sauvages que vous pouvez trouver à droite à gauche sont les mêmes abeilles, les mêmes races d'abeilles que celles qui sont aujourd'hui dites domestiquées ?
C'est très compliqué, mais il y a de fortes chances. On est aujourd'hui, en particulier dans les Pyrénées, puisque je parle des Pyrénées, hein, aujourd'hui, effectivement, dans les Pyrénées, il n'y a plus de race locale d'abeilles. Il y a eu un tel brassage. Là, il faudrait aussi revenir sur ce besoin de l'apiculture de toujours être plus productive. L'un des principaux outils qu'a trouvé l'apiculteur dans ses pratiques, c'est d'empêcher l'essaimage. Parce qu'un essaimage, c'est quoi ? C'est la population de la ruche qui est divisée par deux au moment des plus fortes mielées, c'est-à-dire au moment où les abeilles peuvent le plus être rentables pour l'apiculteur, voilà que la ruche décide de se diviser en deux et arrête effectivement d'accumuler du miel pour aller faire une autre colonie ailleurs. Donc ça, c'est pas supportable pour l'apiculteur. Donc il fait tout pour empêcher cet essaimage naturel. Et c'est pourtant cet essaimage naturel qui permet aux abeilles de se reproduire et de se développer, hein, et qui garantit aussi l'intégrité génétique de la colonie, hein. Au moment de l'essaimage, la nouvelle reine fait son vol nuptial. Elle est fécondée par entre 7 et 17 mâles. Aujourd'hui, avec l'élevage artificiel des reines et leur fécondation, c'est la semence d'un seul mâle qui va féconder plusieurs dizaines de reines. On en est là. Donc on voit bien effectivement à quel point nos pratiques peuvent affaiblir la génétique.
Il y a une déperdition immédiate.
Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc chez nous, effectivement, on n'a plus ces vieilles races locales qui résistaient à certains paramètres. Et elles résistaient pas aux pesticides chimiques, hein. Mais par exemple, au niveau de la météorologie, effectivement, elles étaient adaptées au microclimat local. Ça, c'est très clair. Il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, chez les apiculteurs amateurs, il y a encore des essaims qui partent. Un essaim qui part d'une ruche, s'il n'est pas récolté par un autre apiculteur ou par le propriétaire de la ruche, d'où part l'essaim, il va aller s'installer spontanément dans des cavités, dans des vieux arbres, voilà, il va trouver un lieu, qui sont de plus en plus rares à trouver. Dans les Pyrénées, il n'y a pas de problème, mais dès qu'on va dans la plaine, dans le Gers, voilà, enfin partout, on a tout détruit, donc effectivement, c'est de plus en plus, à part les clochers d'église qui restent intacts, trouver une haie avec des vieux arbres creux, ça devient, dans certaines régions, effectivement, très difficile.
Le risque pour les saints étant de disparaître s'ils ne trouvent pas un abri ?
C'est ça, de s'installer dans des lieux qui ne sont pas convenables et de disparaître dès le prochain hiver. Donc effectivement, on peut estimer qu'aujourd'hui, il y a eu un tel brassage un petit peu partout en France qu'effectivement, il existe quelques zones où on peut retrouver des races locales, des abeilles noires. Mais là encore, pourquoi on a fait la chasse à l'abeille noire ? Pour des raisons de productivité. Soit disant que l'abeille noire se défend mieux. On ne dit pas qu'elle se défend mieux, on dit qu'elle est plus agressive. Voilà, abus de langage.
Elle pique,
voilà. Ce qui est tout à fait faux, parce que j'ai des abeilles qui sont pas mal proches de l'abeille noire, qui sont quand même pas pures, mais quand même, on retrouve quand même beaucoup ce caractère-là. Elles sont pas du tout plus piquantes et plus dangereuses que les autres. Pourquoi une abeille pique ? Parce qu'on l'agresse. Effectivement, à partir du moment où, pour l'apiculteur, surveiller ses ruches, c'est aller leur ouvrir le ventre toutes les semaines ou tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, effectivement, la ruche est complètement déstructurée, régulièrement agressée, et les abeilles vont être plus agressives, mais elles sont plus défensives. L'abeille n'est pas du tout méchante. Faut pas oublier qu'autrefois, très très souvent, les ruches étaient dans les maisons. On a complètement oublié. Elles étaient dans les greniers, elles étaient dans les fenils. Donc la sortie extérieure, bien sûr, et le corps de la ruche était dans le bâtiment, ou alors dans des ruchers. On a complètement oublié ça. Regardez les gravures du 19e siècle, 18e, 17e. Les apiculteurs, ils ne sont pas du tout protégés. C'est pas un hasard. Et encore aujourd'hui, il y a des apiculteurs qui travaillent correctement, qui n'ont pas besoin de se protéger pour aller voir leurs abeilles. Et on sait qu'on peut très bien surveiller une ruche sans lui ouvrir le ventre, sans utiliser ces fameux cadres, les sortir un par un, sans éventrer la ruche. Et à partir de ce moment-là, on a beaucoup moins de stress, on fragilise beaucoup moins la colonie d'abeilles.
Alors justement, Bernard Bertrand, je vous ai coupé tout à l'heure dans votre élan, mais j'aimerais qu'on revienne à ce que vous décrivez comme une éventration. L'image est très forte, en effet, elle est assez saisissante. Ces abeilles... Vous avez raconté tout à l'heure que vous alliez deux fois par an au printemps mettre la hausse et puis à la fin de l'été reprendre la hausse et récolter le miel, c'était tout simple. Et là, vous parlez d'un interventionnisme pratiquement compulsif de la part des apiculteurs. Apparemment, on y va tout le temps, on fait des choses très brutales. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on est passé d'un mode aussi serein, tranquille et discret à quelque chose d'aussi brutal ? Il y a plusieurs choses, me semble-t-il, que vous devez nous expliquer. C'est pourquoi est-ce que le rythme s'est accéléré comme ça, des interventions ? Et quel lien avec alors, ce qu'on appelle la ruche, et qui est en fait le nid, l'enveloppe extérieure, au sein de laquelle la ruche, c'est-à-dire la grappe d'abeilles, peut se développer ?
Revenons en arrière. Pourquoi a-t-on abandonné la ruche traditionnelle sans cadre, qu'on appelait les ruches fixes ? Et pourquoi on est passé effectivement à des ruches dites mobiles dont les cadres s'enlèvent ? Uniquement pour des raisons de productivité. La ruche à cadre a été inventée pour un outil précieux aujourd'hui qui est l'extracteur. C'est-à-dire le cadre est adapté à l'extracteur. On met le cadre dans l'extracteur, ça permet par centrifugation de récolter le miel et d'éliminer facilement tous les déchets de cire, etc., ou de propolis.
Donc c'est une machine qui a décidé de ce que serait aujourd'hui l'habitat des abeilles.
C'est-à-dire c'est la volonté de rendre beaucoup plus rationnelle l'exploitation de la ruche qui a produit effectivement cette évolution de l'apiculture. Aujourd'hui, sur Internet, c'est juste un petit parallèle, un petit clin d'œil, mais aujourd'hui, sur Internet, on voit une vidéo où on voit des gens ouvrir un robinet pour récolter le miel. C'est spectaculaire. Et puis, certaines personnes, ils pensent que c'est merveilleux qu'on va plus être obligé d'ouvrir la ruche. C'est complètement aberrant. C'est le même genre d'invention. Le cadre, il y a un siècle, c'est le même genre d'invention, avec tout un tas d'effets pervers qu'on ne pouvait pas imaginer, que ces inventeurs ne pouvaient peut-être pas imaginer. Bon, sachant quand même que M. Dadan, qui a inventé la ruche à cadre, c'est pas lui qui a inventé le cadre, c'est un Français, j'ai oublié son nom, mais qui a repris ça, c'était d'abord un industriel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a voulu industrialiser la fabrication des ruches et vendre des ruches par milliers. Ça a très très bien fonctionné, ces ruches ont été adoptées. Et il y avait un tel potentiel vital dans l'abeille à l'époque et un tel contexte agrologique favorable que son modèle, il a explosé, il est devenu quasiment universel. Deux, trois modèles de ruches très proches, des grands volumes avec des cadres. Et on s'est dit, c'est merveilleux, aujourd'hui on peut lire la ruche comme un livre à page ouverte.
Chaque cadre étant une feuille
chaque
du livre.
Chaque cadre étant une feuille du livre, une page du livre. Sauf que en faisant ça, l'essaim, la grappe, c'est une entité, c'est l'arène au milieu d'un cocon avec toutes ses ouvrières autour d'elle. C'est un petit peu comme si, moi je prends cette image-là, mais c'est un petit peu comme si, parce qu'on avait un rhume, notre médecin généraliste voulait nous ouvrir la cage thoracique et puis aller voir ce qui se passe dans, hein, ou une bronchite, aller voir ce qui se passe dans notre poumon pour nous soigner. On n'a pas besoin de ça. Et bien l'apiculture, on en est là. Et des gens, mais déjà par exemple l'abbé Voiret, dont effectivement Gilbert Veuille utilisait les modèles de ruches, avait déjà compris que cette pratique-là était aberrante. Lui, il a éliminé les cadres de ses ruches, il a mis des barrettes. Et il dit dans son...
Des barrettes fixes.
Des barrettes, oui, fixes, qui sont posées sur la partie supérieure de la ruche.
Mais donc, comment est-ce qu'on récolte le miel ?
De la même manière, ce sont des éléments qui sont posés les uns sur les autres, et les rayons sont pressés, méthode traditionnelle, qui marche très très bien, les sont pressés au-dessus de gros filtres, étamines, et on récolte le miel de cette manière-là, et on n'en perd pas plus. Bien évidemment, c'est moins rationnel, il faut beaucoup plus de temps, voilà, on n'est pas dans une recherche de productivité avec la ruche Varet, c'est très très clair. Mais on a un habitat qui respecte mieux, effectivement, l'abeille. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la ruche est un corps, et qu'il faut respecter son intégrité. Cette fameuse enveloppe de propolis, si on ne la respecte pas, c'est la porte ouverte pour tout un tas de parasites dans la ruche.
Expliquez-nous ce que c'est que cette fameuse enveloppe de propolis, parce que vous ne l'avez pas encore dit.
Alors, l'enveloppe de propolis, c'est justement c'est la capacité qu'ont les abeilles de tapisser tout l'intérieur de la ruche de propolis.
Comme une sorte de peau à l'intérieur.
C'est exactement. C'est une deuxième ou troisième peau. Il y a l'abeille, elle a sa propre cuticule qui la protège. Et puis, après, autour de ça, elle s'habille de l'enveloppe de propolis. Et puis après, il y a le tronc d'arbre ou la ruche en bois ou une ruche en terre, pourquoi pas, ou un vieux mur. Ou, bon, voilà, elle se débrouille pour se protéger comme ça. À partir du moment où on brise cette enveloppe de propolis, on crée des portes ouvertes pour toutes les parasites qui peuvent rentrer dans la ruche. Et à partir du moment où on enlève... Alors, non seulement on éventre l'essaim, c'est-à-dire on est capable de mettre une reine en pleine lumière, alors que la ruche, c'est d'abord une alcôve qui crée un espace sombre. Hein. La reine, elle ne doit jamais voir le jour en dehors de son vol nuptial. À partir du moment où vous ouvrez toutes les 15 jours, 3 semaines ou tous les mois une ruche, que vous enlevez les cadres un par un pour voir où est la reine, pour voir si ça se va bien, etc., ben on met la reine dans des états de stress pour lesquels elle n'est pas faite. Une reine autrefois vivait 5 ans. Aujourd'hui, la durée de vie d'une reine, c'est 1 an, 2 ans, grand maximum. 2 ans chez les apiculteurs bio, mais grand maximum. Donc on voit bien effectivement qu'il y a un affaiblissement de la génétique de l'abeille qui est spectaculaire. Et ça, c'est avant l'utilisation des pesticides chimiques que l'on utilise aujourd'hui et qui effectivement aussi sont pas sans conséquences sur ces phénomènes-là.
Mais donc ça, c'est la ruche d'Adam qui contraint l'apiculteur à faire ces interventions répétées et effectivement intrusives, quoi. Ce que vous dites, c'est qu'il faut briser ce qui a été construit par les abeilles pour arriver au cœur de l'essaim.
Le cadre a été inventé effectivement pour rationaliser la récolte du miel, mais on s'est rendu compte après qu'il avait des tas d'avantages. À l'époque, on ne récoltait que le miel. On s'est rendu compte que l'utilisation des cadres permettait de récolter aussi la gelée royale, puisqu'on avait accès aux cellules royales, permettait de récolter aussi la cire, puisqu'on avait des rayons qui étaient sur des cadres, donc on pouvait récolter plus facilement la cire. Une fois que le miel était extrait de l'extracteur, on pouvait sortir la cire et la faire fondre. On pouvait récolter aussi le pollen, bon, avec des grilles. Voilà, on s'est rendu compte qu'on pouvait récolter tout un tas de choses. Et on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait visiter la ruche, l'essaim, et on a pris ça comme un progrès. Certaines personnes, comme l'abbé Voiret, se sont rendues compte que c'était faux. Il y a eu d'autres personnes aussi, des apiculteurs au milieu du 19e siècle, qui déjà ont alerté sur le fait que éventrer une ruche n'était pas favorable à la colonie.
Mais Rudolf Steiner lui-même, vous dites qu'il a été très clair sur ce que risquaient les ruches.
Rudolf Steiner a surtout critiqué l'élevage des rennes. L'élevage des rennes, c'est pas quelque chose de nouveau, même si aujourd'hui ça atteint son paroxysme. Effectivement, on est capable d'aller chercher des rennes en Argentine. On est capable de sélectionner des rennes qui ne seront fécondées que par un seul mâle, plusieurs dizaines de rennes fécondées par un seul mâle.
Et puis il y a aussi ce fameux greffage de rennes. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, le greffage de rennes, c'est à nouveau pour améliorer améliorer la génétique de l'abeille. C'est-à-dire qu'on sélectionne des abeilles qui sont plus productives. Sur quels critères ? Ben, le fait qu'elles fassent moins de propolis, le fait qu'elles soient plus douces et le fait qu'elles produisent plus de miel. On est toujours dans cette logique-là.
Mais alors, attendez, vous nous avez parlé de la productivité et de la recherche de productivité. Maintenant, on voudrait qu'elles produisent moins de propolis ?
Eh bien oui, bien sûr. Pourquoi l'apiculteur déteste la propolis ? Parce que la propolis colle les cadres et l'empêche d'aller visiter sa ruche. Donc pour éviter ça, il sélectionne des souches qui produisent moins de propolis. Parmi elles, l'abeille italienne. Par exemple, l'abeille italienne, elle a deux ou trois avantages. C'est qu'effectivement, elle est capable de récolter plus de miel, mais elle propolise moins les cadres. Donc c'est intéressant aussi pour les visites. Et son troisième atout, c'est qu'elle est plus douce, entre guillemets. Elle serait moins agressive, disons moins défensive. Elle a une moindre capacité aussi d'adaptation. Bien sûr, c'est le corollaire, mais ça, on ne le dit pas.
La propolis, vous avez dit tout à l'heure que c'était une sorte de peau, mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour la santé des abeilles.
C'est d'abord leur principale source de médicaments. C'est la propolis qui permet à la ruche d'être en bonne santé. D'autres chercheurs américains ont montré qu'une ruche qui subissait une maladie due à un champignon, par exemple, si les abeilles étaient capables d'aller récolter de la propolis, rapidement de la propolis, la santé revenait très très vite dans la ruche. Si les abeilles n'avaient pas cette capacité à récolter de la propolis, la santé de la ruche se dégradait très très vite. Donc c'est vraiment la trousse à pharmacie de l'abeille, la propolis, c'est essentiel.
Et donc alors, ces fameux greffages de rennes, on va revenir là-dessus, parce que déjà, greffer une renne, ça paraît assez curieux, et quand on entend parler d'élevage de rennes artificielles, là on commence à s'inquiéter carrément.
Oui, Rudolf Steiner, effectivement, s'en est inquiété il y a déjà plus d'un siècle et il avait alerté lors de ses cours d'agriculture ses élèves et ses confrères apiculteurs sur le fait que si on élevait artificiellement des rennes et qu'on les importait dans la colonie d'abeilles, il allait y avoir un problème parce que tout simplement les abeilles, les ouvrières n'allaient pas reconnaître la reine, ce qui est tout à fait vrai et à tel point qu'on est obligé d'introduire les nouvelles rennes dans des petites cages pour les protéger des ouvrières parce qu'autrement les ouvrières les tue dans les minutes qui suivent. C'est pas du tout naturel. Entre une reine qui est élevée par la colonie et une reine qui vient d'extérieur, il y a un stress dont on ne mesure pas les conséquences, mais il est réel. Donc il faut les habituer. Enfin voilà, c'est toujours. Bien évidemment, la sélection que nous propose l'apiculture, c'est une sélection qui est orientée vers cette fameuse productivité. C'est-à-dire, effectivement, les reines que l'on va apporter, c'est pas n'importe quel type de reine. On va pas sélectionner des reines de pays, de race locale. Noir, par exemple, on va importer des souches qui sont soi-disant productives.
Et on va forcer leur présence au sein de la ruche.
Ah oui, on va l'imposer au sein de la ruche, on va empêcher la ruche d'essaimer et on va renouveler effectivement les rennes en faisant un greffage de rennes. Dans l'année, dans une même année, l'apiculteur est obligé de renouveler ses rennes. Je connais des apiculteurs qui, pour éviter l'essaimage naturel des rennes, donc ils font des greffages de rennes, et pour éviter que ces rennes, elles partent, ils amputent une de leurs ailes pour contrôler complètement, effectivement, le renouvellement des rennes dans la ruche. Et c'est eux, et uniquement eux, aujourd'hui, qui renouvellent les rennes de leur rucher. Et toujours avec cet appauvrissement génétique qui est la conséquence de cette pratique.
Oui, puisqu'effectivement, celles-là sont inséminées artificiellement. Mmh. Et là, on retrouve encore complètement les méthodes de l'élevage.
On retrouve des méthodes qui sont hyper intrusives, où effectivement la ruche n'est plus du tout capable de se débrouiller par elle-même. On met la ruche dans un tel état de dépendance qu'elle est complètement incapable de se débrouiller par elle-même et donc elle est incapable de développer par elle-même ses propres défenses. Si on revient sur le cas du varroa, on sait qu'en Sibérie, il y a des abeilles européennes qui ont très très bien résisté au varroa parce que justement, elles étaient dans des conditions de vie sauvage qui leur ont permis de résister à l'arrivée de ce parasite. Ben, on peut revenir sur ce parasite parce qu'il est quand même un très bon cas d'école, entre la manière dont il s'est développé et dont on entretient encore aujourd'hui le développement de ce parasite. Parce que le varroa, dans une ruche sauvage, il va se développer sur les cellules mâles qui sont les plus grandes cellules que construisent les abeilles. Sauf qu'aujourd'hui, l'apiculteur, il met dans ses ruches, il met des sirgots frais. Et l'apiculteur a agrandi l'alvéole pour que les abeilles produisent plus de miel. Il a agrandi les alvéoles, il a agrandi la taille des alvéoles. Ce qui fait que les varroas qui, hier, ne pouvaient pas pondre dans les cellules des ouvrières, aujourd'hui peuvent le faire. Et aujourd'hui, c'est toute la ruche qui est infectée. C'est-à-dire, on voit encore une conséquence d'une pratique qui n'est pas réfléchie, où pour un gain de productivité, effectivement, on fragilise la ruche au point que, là encore, on va favoriser le développement de ce varroa. Et pour lutter contre le varroa, on va mettre un petit peu plus de chimie. Voilà, on est. Et ces sirgots frais aujourd'hui, ça c'est quelque chose, moi, que j'arrive pas à comprendre, mais ces sirgots frais aujourd'hui, qui hier étaient en cire, aujourd'hui on est capable de les faire en plastique et les ruches en polystyrène. Et il y a des apiculteurs pour les acheter, parce que c'est plus facile à poser, c'est plus facile à entretenir, et il y a des apiculteurs, voire les industriels qui produisent ces produits-là, qui sont capables de vous dire, on contrôle mieux l'état sanitaire de la ruche avec une ruche en plastique et des cires en polystyrène. Enfin voilà, on en est à ce niveau-là d'aberration. Et là encore, toute l'intégrité de la ruche et tout ce bel édifice qu'est la ruche est complètement nié par nos pratiques. On est capable, effectivement, d'en faire quelque chose d'artificiel.
Bernard Bertrand, dans votre livre, Les ruches de biodiversité, vous étonnez de ce que l'abeille ait été si bonne patte jusqu'à aujourd'hui, qu'elle ait accepté tant de heurts et tant de blessures. Et puis vous vous étonnez aussi qu'on ait osé parler de la domestication des abeilles. J'ai mis trois paires de guillemets que vous avez entendues.
Ça fait effectivement bien longtemps que l'abeille est une vache à lait pour l'homme. Et c'est vrai que c'est très dommage. Et on a toujours l'image, l'apiculteur donne toujours une image assez écologique d'une activité qui paraît saine. On ne se rend pas du tout compte effectivement à quel point on a pu artificialiser cette production. Moi, je trouve assez parlant de se dire que l'abeille, la ruche, est sans doute la première activité agricole à avoir été industrialisée.
La première, vraiment ?
Ah, vraiment la première, parce que c'est au milieu du 19e siècle que la ruche à cadre est inventée, et c'est le premier outil d'industrialisation, effectivement, d'une activité agricole. Il faudra attendre un siècle de plus, et l'après-guerre, pour que, ça vient d'Amérique, Monsieur Dadan était un industriel américain, il faudra attendre plus d'un siècle après-guerre pour que le plan Marshall nous impose aussi un modèle agricole, industriel, dont on connaît aujourd'hui, on les connaît depuis longtemps, les conséquences, mais aujourd'hui, tout le monde est en mesure, pas uniquement les écolos comme nous, tout le monde est en mesure d'apprécier effectivement les dégâts faits par l'industrialisation des techniques agricoles. Or, pour l'apiculture, ça fait effectivement très longtemps que ces phénomènes-là sont en marche, qui expliquent effectivement la généralisation d'un seul et même modèle de ruche, et ce qui explique toutes ces dérives-là, quoi, qui au début passaient un petit peu inaperçues. Pourquoi ? Parce que, tout comme nos sols étaient suffisamment riches il y a 50 ans pour accepter des mauvaises pratiques, des labours profonds et des choses comme ça, il a fallu 50 ans pour qu'on ruine leur fertilité, et bien effectivement, la fertilité des agroécosystèmes était telle, parce qu'il y avait beaucoup de bocage, parce que les pratiques agricoles étaient encore très respectueuses, la chimie, il a fallu quand même beaucoup de temps pour qu'elle se généralise. C'était au début, les produits chimiques étaient chers, c'était simplement quelques grosses exploitations qui pouvaient les offrir, c'était pas le petit agriculteur. Donc on était dans un schéma vertueux, et toujours on se rend compte qu'effectivement, quand on ramène un petit peu de technologie dans ces disciplines-là, on a des rendements qui explosent et tout ça, et c'est l'euphorie, et on croit que c'est nos nouvelles pratiques qui sont responsables de ces gains de productivité et tout ça. Mais pas du tout, c'est juste parce qu'on exploite un veau d'or, et que très très vite on arrive au bout du système, et que très très vite on assiste à des effondrements effectivement des agroécosystèmes, avec une perte de productivité spectaculaire. Et là, c'est une perte de la ruche qui est spectaculaire, puisque les ruches dépérissent les unes après les autres.
Et c'est pour ça que vous proposez, Bernard Bertrand, de laisser les abeilles tranquilles.
Mais face à toutes ces dégradations et face à cette perte, effectivement, de capacité d'adaptation, quelle solution reste-t-il ? Il faut effectivement redonner à un minimum d'abeilles la capacité de retrouver leurs conditions de vie sauvage. Et à partir de ce moment-là, d'essaimer et de retrouver une sélection positive, une génétique positive où elles vont à nouveau être capables de se défendre par elles-mêmes et de sélectionner parmi elles des souches qui sont de plus en plus résistantes. Et le seul moyen, et ça c'est Gilbert Veuille qui me l'a montré, le seul moyen effectivement, c'est de mettre en place, c'est lui qui a trouvé ce terme de ruche de biodiversité, c'est de mettre en place des ruches sur lesquelles on fait zéro intervention.
Alors, les mêmes qu'avant, mais simplement on n'y touche plus ? Non, bien sûr que non.
Si, ça peut être les mêmes qu'avant et on n'y touche plus.
Ah non, pas des ruches carrées.
Sauf, voilà. Alors, quand je dis les mêmes qu'avant, c'est les mêmes qu'avant les ruches carrées à cadre. Hein. C'est-à-dire des ruches fixes. Les ruches fixes, des ruches sans cadre. Des ruches que l'on n'ouvre pas, des ruches que l'on n'éventre pas. Et alors là, gros tollé des apiculteurs, ils vont nous dire, oui, mais à cause de vous, on va attraper toutes les maladies possibles et imaginables. Non, non, non et non, et mille fois non, puisque une ruche qu'on ne touche pas est capable de se protéger par elle-même. Et ça, effectivement, on en a la preuve, puisqu'on connaît des essaims sauvages qui ont plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et quand bien même un essaim sauvage va disparaître, il sera remplacé rapidement. Certaines maladies qui sont courantes en apiculture, à cause justement de nos interventions ou alors de parce qu'il y a trop d'humidité dans les ruchers, des choses comme ça, on n'a jamais ces problématiques-là dans des ruches sauvages, entre guillemets, dans des ruches qu'on n'ouvre pas. Toujours pareil, parce qu'on respecte l'intégrité de la ruche.
Oui, mais alors, Bernard Bertrand, vous pourriez vous dire, laissons les essaims sauvages se débrouiller tout seuls, puisqu'ils sont, après tout, capables de trouver des conduits de cheminée, des vieux trous, des arbres creux, il en reste encore quelques-uns. Mais en fait, non. Vous proposez de construire, de fabriquer des ruches dites de biodiversité. Et là, je dois dire que c'est la partie extrêmement lumineuse de ce livre que vous proposez, qui est très abondamment illustré de toute façon. Donc, on voit vraiment très très bien ce qui se passe. Mais on découvre ou on redécouvre l'immense diversité des ruches d'autrefois. Elles sont extrêmement belles. Elles sont dans toutes sortes de matériaux et elles ont toutes une particularité, c'est qu'en effet, il n'y en a pas une seule qui soit carrée.
Oui, elles sont plutôt rondes. Le problème aujourd'hui, c'est quand même la perte de l'habitat. C'est quand même le problème essentiel. Il reste quasiment plus d'arbres creux. Certaines régions sont complètement dévastées. Nos paysages ont été complètement dévastés. Où trouver encore un bocage digne de ce nom ? C'est devenu vraiment de plus en plus difficile. C'est les deux tiers de notre territoire qui sont dévastés à ce niveau-là. Si on ne ramène pas des abeilles dans ces territoires-là, et se pose alors aussi le problème de la disponibilité de nourriture, hein, parce que c'est bien de s'occuper de l'habitat des abeilles, mais on peut pas oublier aussi qu'il faut aussi s'occuper de leur donner à manger. Les deux vont de pair. Hein. Mais aujourd'hui, effectivement, la ruche de biodiversité, on peut l'appeler nichoir, on peut l'appeler ruche de conservation. Leur premier objectif, c'est de remplacer l'habitat naturel qui a été détruit. Ça, c'est extrêmement important.
Alors, pourquoi ronde et pas carré ?
Alors, pourquoi ronde et pas carré ? Tout simplement parce que la forme ronde évite les angles morts. Carré, une ruche carrée, si elle est grande, en plus, il y a des angles morts où l'influence de la grappe de l'abeille ne peut pas se faire sentir. Avec la diminution aujourd'hui de la taille des grappes et des essaims, hein, qui est assez spectaculaire, autrefois on trouvait des essaims extrêmement gros qui remplissaient une ruche carrée très très vite. Aujourd'hui, c'est quasiment introuvable, des essaims de cette taille-là. Ils ont quasiment divisé par deux. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il faut imaginer que la grappe, c'est un gros œuf, un œuf d'autruche au milieu de la ruche. L'hiver, quand il fait très froid, il fait 7 degrés autour de la grappe. Il ne faut pas que ça descende en dessous, les abeilles, elles survivent. Mais pour aller se nourrir, les cadres de miel sont sur les côtés. Pour aller se nourrir, les abeilles passent dans des zones froides. Elles s'engourdissent, elles tombent, elles meurent. Des ruches entières disparaissent, meurent, alors que la ruche est pleine de miel, mais sur le bord. Pourquoi une ruche ronde ? Parce que les abeilles, naturellement et spontanément, mettent la réserve de miel au-dessus d'elles. Le couvain est en dessous, et là, la réserve de miel est au-dessus. Il n'y a pas d'interruption entre la grappe et la réserve de miel. C'est une continuité. Une ruche, c'est vraiment une entité, je le répète, c'est important de le dire. Donc, il n'y a jamais de phénomène thermique négatif. Le rôle de la grappe, c'est de maintenir une température constante et une hygrométrie constante. On oublie souvent l'hygrométrie, elle est extrêmement importante. Les deux facteurs sont importants.
Et en fait, c'est là que la forme est vraiment essentielle.
Voilà. Beaucoup d'apiculteurs ont réfléchi à la forme idéale de la ruche. Ça serait effectivement une forme d'œuf. Parce que, effectivement, c'est là où l'abeille a le plus de facilité pour gérer l'hygrométrie et la température. C'est le plus facile de faire de l'autorégulation, effectivement, dans ce type de forme que dans des grands volumes avec des espaces perdus, des angles morts, etc., etc.
Et alors, les matériaux utilisés pour faire ces ruches ?
Sans compter un argument important que j'ai oublié, c'est que dans ces fameux angles morts, ils vont se mettre aussi des tas de bêtes indésirables, que ce soit les souris ou des papillons porteurs de teigne, etc. Voilà, là, on a aussi ce phénomène-là qu'il ne faut pas négliger.
Et on peut y rajouter, puisqu'on est dans les rajouts, les champignons induits par une trop forte humidité. Vous parliez de l'hygrométrie ?
Tout à fait. Autrefois, les ruches étaient très souvent dans des bâtiments. Les ruches pouvaient être en paille, pouvaient être en terre, pouvaient être en bois. Le bois, il fallait des planches. Les planches n'étaient pas forcément accessibles par tout le monde. Donc la vannerie était accessible par tout le monde. Et la plus grande diversité des modèles de ruches, elle est en vannerie. Les modèles traditionnels de ruches, elle est en vannerie. Et ces ruches en vannerie étaient recouvertes d'un mélange de terre, de bouse de vache et d'argile et de cendres. Mais ça garantissait pas quand même une étanchéité à 100%. Donc elles étaient recouvertes d'un chaume ou elles étaient mises dans des ruchers, à l'abri. Voire dans les maisons, quand les propriétés étaient trop petites et que les agriculteurs étaient très très pauvres, les paysans étaient très très très, très pauvres, et bien on mettait la ruche dans les greniers, ou on mettait la ruche dans une pièce avec le trou d'envol à l'extérieur. L'important, c'est que le trou d'envol ne soit pas sur un lieu de passage. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée abeille domestique, d'ailleurs. C'est parce qu'elle était proche de l'homme, non pas parce qu'on l'avait apprivoisée comme on a pu apprivoiser les chiens. Et les abeilles étaient très très souvent à proximité des hommes, et ça posait aucun problème de cohabitation. Y compris avec des races locales noires, soi-disant agressives et méchantes. Ce qui était faux, ce qui a toujours été faux.
Alors qu'aujourd'hui, il y a des arrêtés préfectoraux qui interdisent de mettre les ruches à moins de, je ne sais plus combien de mètres, des habitats, des voisins.
Voilà, on a complètement, effectivement, oublié cette notion de proximité entre l'homme et l'abeille. Et effectivement, aujourd'hui, on nous fait peur avec des tas de choses qui ne devraient pas être, par méconnaissance. Et c'est tout à fait dommage. Et aujourd'hui ou demain, on va aussi avoir des arrêtés préfectoraux qui vont nous imposer de traiter les ruches.
Mais Bernard Bertrand, vous avez évoqué la nécessité aujourd'hui de laisser les ruches à elles-mêmes, de construire des habitats, puisqu'en effet, il y a ce problème d'habitat sur le territoire, mais de ne surtout plus intervenir. Alors est-ce que par là, vous entendez simplement ne plus aller 25 fois par an ouvrir le corps de la ruche, regarder ce qui se passe dedans enlever une reine, en mettre une autre, enfin, faire toutes ces manipulations que vous avez décrites, ou bien est-ce qu'il s'agit aussi de ne plus toucher au miel, à la gelée royale, à la propolis, au pollen, c'est-à-dire à tout ce qui fait partie des ressources pour l'homme ?
Dans le cadre de la ruche de biodiversité, c'est très très clair, l'idéal c'est zéro intervention. Ce que l'on va rechercher, c'est zéro intervention. L'idée, c'est faire confiance à la nature, faire confiance à l'abeille. Lui permettre, effectivement, de se retrouver dans des conditions où elle va se développer par elle-même et elle va développer ses propres défenses par elle-même.
Si ce n'est que vous disiez, il y a quelques instants à peine, qu'il fallait nourrir les abeilles. Et ça m'a fait un peu dresser l'oreille, puisqu'il me semblait que le nourrissage des abeilles, c'était justement une des techniques employées pour pouvoir leur prendre encore plus de miel, puisque de fait, elles se nourrissent de leur miel, entre autres, et qu'on remplace ce miel par du sucre industriel.
Alors, quand on remplace du miel par du sucre industriel, on est effectivement dans un schéma où, voilà, on s'inquiète très très peu de la santé de l'abeille. Je veux dire, personne, fort heureusement, pourtant il y a énormément de sucre dans notre alimentation, mais on lui fait la chasse, et en tout cas c'est reconnu effectivement les dégâts des sucres industriels. On les connaît, ils sont vrais pour nous, ils sont vrais aussi pour l'abeille qui doit se nourrir d'un aliment qui est complet et équilibré, et pas uniquement d'un aliment industriel et raffiné, ça c'est une évidence. Alors pour les ruches de biodiversité, alors comment séparer les choses? L'idée c'est quand même, on est dans une phase où les ruches et les abeilles sont tellement agressées qu'il faut sauver tout ce qu'on peut. Si effectivement au moment de récupérer un essaim, on se rend compte qu'il a besoin d'être nourri, est-ce qu'on le laisse dépérir ou est-ce qu'on va essayer de le sauver par un nourrissage, par un complément alimentaire qui lui permette de s'installer?
Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'être nourri? Parce qu'il est faible, c'est ça? Parce qu'il a été...
Parce qu'il est faible et qu'il n'a pas cette... Je disais tout à l'heure qu'effectivement, on ne trouvait plus de gros essaims dans la nature. C'est pas un hasard, on a quand même fragilisé une espèce. Je reviens à mon parallèle avec les sols. Pour moi, c'est pas aberrant un sol désertique de relancer sa dynamique avec un petit peu d'artificiel, d'agriculture artificielle. Il faut réamorcer la pompe à produire de la matière organique pour que son sol retrouve une véritable vie. Ben, effectivement, on est allé tellement loin dans la dégradation des abeilles, ça ne me paraît pas aberrant de donner un petit coup de pouce à nos ruches de biodiversité si on a besoin de le faire, si on est dans un contexte difficile. Cette année, par exemple, on n'a eu aucun essaimage dans beaucoup de régions de France. On a eu une très grosse production de miel, quasiment pas d'essaimage naturel, y compris chez les apiculteurs amateurs comme moi, où j'ai des ruches sur lesquelles je ne fais pas d'intervention.
Donc vous proposez non seulement de ne plus leur prendre leur miel, mais de leur en donner. Vous allez vous faire mettre au pilori, Bernard Bertrand.
Déjà, rappelons que je ne veux pas opposer les ruches de biodiversité avec les ruches de production. Ce sont vraiment deux démarches parallèles qu'il faut mener de front. Ça veut dire aussi qu'il y a des ponts entre les deux. Aujourd'hui, on n'a plus véritablement la connaissance du travail avec des ruches traditionnelles en vannerie, par exemple. On sait faire des ruches en vannerie, ça c'est pas compliqué, on n'a pas perdu la technique. Ça, c'est des phénomènes qui sont vrais dans beaucoup de disciplines. On sait faire l'objet, mais on ne sait plus comment il marche. Et c'est ça qu'il faut réacquérir, qu'il faut retrouver. Ça veut dire qu'on va vers des années de tâtonnement. On va essayer d'apprendre, de comprendre comment ça fonctionne. Ben, quand tout ira bien, ben, tant mieux. On fera de l'observation, on notera sur des carnets et on essaiera d'en tirer les conclusions. On va faire des erreurs, on va se tromper. Il y a des ruches qui vont mourir, bien sûr, parce qu'une ruche de biodiversité n'est pas à l'abri d'un accident. Quand ce sera le cas, ben, on essaiera de faire une petite autopsie, de voir, d'observer cette enveloppe de propolis, voir si elle est complète, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Et on va essayer de réapprendre une nouvelle apiculture. Je disais tout à l'heure, dans les années 70, par exemple, dans toutes les écoles d'apiculture de France et de Navarre, il y avait une méthode qui était enseignée. Une et une seule. C'était l'apiculture mobiliste sur des ruches à cadre. Les ruches traditionnelles avaient complètement été évincées. Il reste aujourd'hui quelques ruchers en Cévennes avec des ruches troncs, mais c'est un vestige du passé tout à fait exceptionnel. Donc il faut retrouver ces méthodes et réinventer peut-être même de nouveaux modèles de ruches. Jamais discipline n'a été aussi prolixe en modèle. C'est un petit peu comme si chaque apiculteur avait à cœur de créer son modèle de ruche. Il n'y a jamais eu autant d'inventivité dans un domaine que dans celui de l'apiculture. Et fort heureusement, des ruches rondes traditionnelles, il y a encore des gens qui travaillent dessus. On invente aujourd'hui de nouveaux modèles de ruches sous la forme de l'œuf aussi, qui sont intéressantes. Donc.
Mais là, vous parlez de ruches de conservation ou de ruches de production?
Alors, voilà. Donc, dans la mesure où on n'oppose pas ruches de production et ruches de conservation, où ce sont deux démarches qui sont parallèles, mon idée, et l'idée des amis qui travaillent avec moi dans ce domaine-là, c'est d'avoir aussi des ruches intermédiaires. C'est-à-dire, notre idée, c'est d'avoir des ruches de biodiversité, mais quand on en a suffisamment, deux, trois ruches de biodiversité dans un milieu, il faut jamais surcharger un milieu en ruches au-delà de ses capacités de nourrissement. Il faut que les abeilles trouvent à manger, parce qu'autrement, on va créer des famines, ce que fait d'ailleurs l'apiculture avec des milliers de ruches, quand on a des ruchers de 200-300 ruches, sur de l'agriculture intensive, ou
Des monocultures,
où la mielée dure 15 jours, 3 semaines, et après, les abeilles sont en disette constante. Là, effectivement, les abeilles deviennent agressives. C'est l'un des facteurs qui justifie aussi l'agressivité des abeilles, mais elles sont agressives entre elles, il y a des pillages, enfin voilà, il y a tout un tas de phénomènes qui sont tout à fait néfastes. Donc c'est important de garder une vision globale de ce qu'est l'apiculture et sous prétexte de faire des ruches de biodiversité, il ne faut pas en mettre 100 dans un petit bois d'un hectare, ça serait complètement aberrant. Il faut en mettre 2, 3 grand maximum. Et bien évidemment, le miel, c'est quelque chose de fabuleux. Et bien évidemment, notre idée, c'est pas de nous priver complètement de cette ressource parce que c'est quelque chose d'important. Et ça fait aussi partie de notre culture. Pendant longtemps, le miel a été la seule source de sucre pour l'espèce humaine. C'est depuis un siècle, deux siècles maximum qu'on a accès à des sucres raffinés de betterave ou de canne à sucre. Avant, c'était uniquement à base de miel. Donc il faut continuer. Et l'idée aujourd'hui, c'est peut-être de trouver des ruches qui seraient des ruches en vannerie sur lesquelles on pourrait mettre une calotte et sur lesquelles, pourquoi pas, récolter 2-3 kilos de miel. Mais au lieu de le récolter en fin d'été et de priver les abeilles de leurs réserves, c'est un miel qu'on va systématiquement récolter au printemps. Et tant pis s'il est dur, et tant pis si... Voilà. C'est pas grave d'être obligé de détruire le rayon. On se rend compte que parmi les choses importantes pour les abeilles, il est important que les cirières travaillent tous les ans. Il est important que chaque année, les abeilles fabriquent de nouveaux rayons de cire. Ça renouvelle la cire et ça fait travailler une certaine population de la ruche. Vous savez que c'est compliqué l'apiculture. Mais les abeilles, elles changent d'activité dans leur...
Au cours de leur existence.
Au cours de leur existence. Et c'est important. Les cirières, longtemps, ont été négligées, ont été méprisées. Donc on faisait des rayons de cire complets. Elles n'avaient pas à travailler. Et ça a contribué aussi à la fragilisation de la ruche.
Et donc, on redonne du travail aux cirières, on arrête d'épuiser les ouvrières, celles qui vont butiner, on laisse les rennes tranquilles, on laisse les ruches tranquilles, et on invente 1000 modèles, tous plus beaux les uns que les autres.
Oui, à partir du moment où on respecte certaines règles, effectivement la forme ronde, la forme d'œuf. On peut effectivement imaginer des tas de ruches différentes. Et aujourd'hui, on voit, il y a des travaux très intéressants dans ce domaine-là, soit pour des ruches de biodiversité, soit pour des ruches de production d'ailleurs. Tout le monde travaille dans ce sens-là. Mais la ruche de biodiversité la plus simple, ça reste et ça restera toujours, je pense, le tronc d'arbre. Hein.
Donc en gros, redonner aux abeilles le cadre qui leur permettait de vivre et de vivre sans notre aide. Alors c'est ça qui est paradoxal peut-être, c'est qu'aujourd'hui il faut qu'on les aide à vivre sans nous.
Mais aujourd'hui il faut qu'on reconstitue des écosystèmes, et dans ces écosystèmes il faut effectivement que l'habitat de l'abeille soit présent. Donc soit on aura effectivement des vieux arbres creux, tant mieux, soit on leur proposera des ruches de biodiversité, des abris à abeilles, appelons ça comme on veut, des nichoirs à abeilles, peu importe. Mais on va dire des caisses, pour utiliser un terme générique, des caisses qui correspondent à leur habitat naturel, où elles peuvent survivre dans de bonnes conditions.
Finalement, Bernard Bertrand, peut-être que ce qui m'a le plus étonné en découvrant ce thème, grâce à vous et grâce à votre livre, c'est de m'apercevoir que l'abeille, l'apiculture, la ruche était une sorte d'exemple parfait de ce que c'est aujourd'hui que l'extractivisme. Alors c'est curieux d'être étonné puisqu'on a extrait le miel, en effet, des ruches depuis toujours. Aujourd'hui, c'est peut-être ce côté tellement forcené de la manière d'extraire qui est le signe, la signature du problème de notre société.
Oui, le sens des ruches de biodiversité, je crois, c'est simplement de faire confiance à la nature, faire confiance à l'abeille. Si on veut sauver les abeilles, il faut simplement leur foutre la paix.
Une abeille, un jour de printemps, voletait gaiement sur la rose bruyère en fleurs, dont si douce est l'odeur. Au pied de la bruyère en fleurs, une pauvre chenille en pleurs regardait voler dans le ciel la petite et son miel.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger, la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez un lien vers les publications de Bernard Bertrand et notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Genepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Philippe Palares, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.
Et sur une bruyère en fleurs, notre abeille a donné son cœur, tandis que chantaient les grillons aux petits papillons. Par les bois, les champs et les jardins, se frôlant de leurs ailes, ils butinent la rose et le thym dans l'air frais du matin. Ma petite histoire est finie, elle montre que dans la vie, quand on est guidé par l'amour,